Voilà, alors je vous propose d'enchaîner tout de suite. Voilà, M. Poirier est déjà là, prêt à vous livrer sa vision des choses, puisque ce panel, ce troisième et dernier panel aujourd'hui, porte sur l'économie de la culture. Aurons-nous des modèles qui vont perdurer ou sommes-nous devant un changement de paradigme carrément? Est-ce qu'il est possible d'analyser les nouveaux modèles d'affaires, notamment ceux qu'adoptent les majors, pour entrevoir l'évolution des modes de production, mais aussi de diffusion et de consommation des biens et des services? Alors, comme tout à l'heure, un conférencier principal suivi d'un panel avec quatre invités qui vont s'ajouter dans une vingtaine de minutes. Alors, ce conférencier, c'est M. Christian Poirier, qui est professeur-chercheur au Centre Urbanisation, Culture et Société de l'Institut national de la recherche scientifique. Il est aussi responsable de l'axe industrie culturelle à la chaire Fernand Dumont sur la culture et co-directeur du laboratoire Arts et Société, Terrain et Théorie. Ses recherches et publications portent sur les industries culturelles et créatives, dont le cinéma, mais aussi sur les organisations, institutions et politiques culturelles, ainsi que la sociologie et l'économie politique du champ culturel. Alors, M. Poirier, voilà, je vous invite.
Merci beaucoup.
Maintenant d'abord, que tout le monde est là, hein, d'une seconde à l'autre.
Merci. Alors, d'abord, merci à l'Observatoire et Dominique pour cette belle invitation. Effectivement, on nous a posé une question assez importante, sérieuse et assez difficile. Je vais tenter d'y répondre, en tout cas d'amener un certain nombre d'éléments de discussion et de réflexion qui vont reprendre aussi plusieurs éléments qui ont été abordés par d'autres personnes depuis le début de la journée. Et je vais le faire en traitant d'un secteur dont on a relativement peu entendu parler jusqu'à maintenant, soit celui du cinéma. Je prendrai à la fois le cinéma québécois, mais aussi plus largement l'industrie du cinéma. Mais j'aurai aussi des propos qui vont être plus larges en traitant en général des modèles d'affaires, et donc à partir desquels mes collègues tout à l'heure pourront rebondir. Donc, je vais procéder en abordant les différentes étapes de la chaîne de valeur des industries culturelles, de la production à la diffusion. Et dans chaque cas, je vais traiter de ce qui m'apparaît être des enjeux importants, pas tous les enjeux, je ne pouvais pas le faire en 20 minutes, mais quelques enjeux importants, en tout cas saillants, qui dynamisent, qui transforment, commencent à transformer l'industrie du cinéma, si la musique a été un des premiers secteurs affectés, touché par toute cette question, l'édition aussi. Quelques-uns l'ont souligné depuis ce matin, là, d'autres secteurs arrivent, dont le cinéma, qui commence à utiliser, tant au niveau de la production que de la diffusion, des moyens numériques. Et donc, l'ensemble des questions qu'on a traitées depuis ce matin commencent déjà à se poser à ce niveau-là. Vendredi dernier, j'étais avec certains d'entre vous à une journée entière consacrée au numérique et aux nouveaux médias utilisés dans la distribution de films. C'était dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma. Donc, ça vous montre, quand il y a des événements comme ça, que ça devient vraiment un enjeu important. D'abord, un rappel de la chaîne de valeur classique, traditionnelle et les premières diversifications des modes de diffusion. Ici, appliquées au cinéma, donc c'est des éléments que vous connaissez, de la création aux productions, en passant ensuite par la distribution, qui est un aspect très important dans l'industrie cinématographique, qui fait vraiment le pont entre le producteur et ensuite les diffuseurs et donc les différentes fenêtres de diffusion, que sont les salles, mais aussi ensuite cette diversification des modes de diffusion du cinéma. Quand je dis que le cinéma commence à être attrapé, je dirais, par Internet, ça ne veut pas dire que le numérique n'est pas un enjeu depuis longtemps. Au contraire, dès la fin des années 70, début des années 80, la question du numérique et de l'ensemble d'autres supports a commencé à émerger par le biais d'intervention au niveau du vidéo, mais ensuite surtout le DVD, la vidéo à la demande ou vidéo sur demande, les télévisions à chaîne, télévisions payantes aussi. Donc, très rapidement, dès les années 80-90, les câblos distributeurs, les opérateurs de télécom sont devenus une partie importante et, je dirais, ont gagné un rapport de force de plus en plus important dans l'écosystème et dans l'économie de l'industrie cinématographique. J'y reviendrai dans un instant parce que plusieurs éléments abordés tout à l'heure concernant les fournisseurs d'accès Internet posent aussi des enjeux très majeurs. Donc, télévision payante et puis télévision finalement directe, les télédiffuseurs classiques. Et ensuite, la consommation fréquentation. Avec à l'esprit que l'ensemble de ces étapes de la chaîne qui apparaissent là de façon chronologique, de façon distincte, ont été au fur et à mesure donc de l'évolution temporelle amalgamées les unes dans les autres. De plus en plus de cinéastes, notamment de la jeune génération, créent très rapidement leur propre entreprise de production, contrairement à leurs aînés, par exemple. Donc, un lien très fort entre réalisateurs de films et producteurs de films. Les distributeurs sont maintenant, et c'est d'ailleurs les autorités gouvernementales qui l'exigent, par des accords de distribution avec les distributeurs ont un pouvoir important dans le système, peuvent même parfois avoir leur mot à dire dans le scénario ou le choix de comédien. Je pense ici aux plus importants distributeurs. Et les liens sont très forts aussi avec la diffusion. Et on le verra, avec Internet, l'aspect consommation-fréquentation refait une boucle plus générale qui vient influencer et qui vient, en tout cas, amener, teinter à la fois les autres étapes. Donc, là, on va revenir à des éléments abordés plus tôt ce matin, notamment dans la vidéo concernant Arcade Fire. Donc, je vais commencer d'abord, et donc, cette figure 2, donc, montre d'abord cette diversification première avec les salles et l'ensemble des autres produits, des autres fenêtres, et ensuite Internet. Et finalement, ce que ça pose, c'est que l'importance des opérateurs agrégateurs, ici je fais principalement référence aux entreprises de câble distribution, de télécommunications, donc Vidéotron Québécois, Bell aussi, mais aussi aux fournisseurs d'accès à Internet. Donc on voit ici qu'ils se positionnent vraiment en parallèle à cette chaîne classique de la distribution-diffusion, voire même au cœur de cette chaîne-là. Québécois est propriétaire de TVA Film, une entreprise de distribution de films. Mais par Vidéotron, on va aussi distribuer et diffuser via Internet et l'ensemble des autres plateformes que l'on connaît bien aujourd'hui, ses propres films qu'elle veut distribuer. Par la création-production, il y a, et c'est la flèche verte dans le bas, une potentialité, je dis bien potentialité, parce qu'au Québec, c'est vraiment ici, on en est au premier balbutiement de l'industrie, il y a une potentialité d'accès direct entre créateurs, producteurs et ensuite les consommateurs. Il y a des modèles qui émergent, j'en traiterai tout à l'heure de quelques-uns, mais on est vraiment à des premiers stades d'expérimentation. Donc, au niveau de la création-production, quelques enjeux importants. Bon, les jeunes cinéastes, en tout cas la nouvelle génération, les 18, 19, 20, 21 ans en ce moment, le disent ouvertement, les outils numériques ont facilité les capacités de production. Et l'Observatoire, dans un de ses rapports sur l'état de l'industrie du film et les statistiques du film, évoquait une hypothèse, je crois, extrêmement intéressante, à l'effet que le grand nombre de films que l'on produit au Québec, parce qu'au niveau de la production, on a vraiment un niveau tout à fait comparable à des sociétés similaires sur le plan démographique. En 2008, c'était 33 longs métrages qui ont été produits, donc c'est beaucoup, davantage que pendant plusieurs années auparavant. Donc, on a des niveaux de production importants. L'Observatoire émet l'hypothèse que ce serait peut-être lié au numérique, à cette démocratisation des outils, des équipes de tournage. Et ça semble être en partie confirmé, en tout cas par le discours que j'entends dans les entretiens, dans mes recherches, de la part des jeunes. Donc, capacité davantage de produire en dehors, ou en tout cas, capacité maintenant de faire des films en dehors des structures institutionnelles, que ce soit celle de Téléfilm Canada ou de la SODEC pour le Québec. Sur le plan tout de même des productions, il y a deux tendances qui sont repérables. Une tendance à favoriser, qui nous vient en partie d'un certain nombre de politiques du film, notamment les enveloppes fondées sur la performance de Téléfilm Canada il y a déjà un certain nombre d'années, mais une tendance à, oui, favoriser des productions à gros budget, productions avec grand capital et renfort de marketing et de publicité, les vedettes. Et là, on est dans un modèle typiquement plutôt hollywoodien. Donc, une industrie qui va développer, comme le fait en ce moment l'industrie hollywoodienne, quelques gros films porteurs, et ensuite, deux ou trois, quatre films intermédiaires et toute une panoplie de petites productions. À Hollywood, on a eu une même dynamique et maintenant, Hollywood a d'ailleurs délaissé tous ses films intermédiaires. Et d'ailleurs, l'industrie indépendante du film y voit là en ce moment une occasion de se renflouer économiquement parce qu'elle est plutôt en crise. Et Hollywood va plutôt acheter même des films et des productions de cinéastes indépendants, de producteurs indépendants, mais va se concentrer vraiment sur 2, 3, 4, 5 gros blockbusters. Et le numérique, le 3D, avec ses coûts de production, n'a fait qu'accélérer, je dirais, ce phénomène. Alors, au Québec, on retrouve une diversification au niveau de la production, mais tout de même, comme dans des marchés hollywoodiens ou même ailleurs, hein, des marchés nationaux qui adoptent le modèle hollywoodien, quand même des effets de blockbuster. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on commence à parler de blockbuster québécois, canadien. Et de plus en plus de chercheurs, un collègue de Concordia, étudie ce phénomène des blockbusters à la québécoise. Donc, l'ensemble de l'économie, de l'industrie a, je dirais, favorisé ces questions. Émergence, parallèlement à ces phénomènes de massification de l'industrie, mais aussi en même temps de segmentation et dispersion des marchés. Émergence de nouveaux modèles d'affaires très récents. C'est le cas du site Internet et de l'entreprise TouscoProd, fondée par Nicolas Bailly, un Français, mais qui vient maintenant d'être lancé officiellement durant le Festival du Nouveau Cinéma il y a donc quelques jours. Un TouscoProd, donc version canadienne, qui est en fait une plateforme de producteurs indépendants qui permet le développement, la production et la distribution de leurs films via Internet. Alors, le principe est simple. On fait un appel à la souscription des internautes pour qu'ils deviennent des coprods. Et donc, par le biais d'un investissement qui est de 15 $ minimal au Québec et au Canada, eh bien, ils peuvent devenir officiellement coproducteurs du film. Alors, Laurence Anyways, le prochain projet de Xavier Dolan va être financé en partie par cette voie-là. Il va être financé encore par des voies traditionnelles, classiques, mais il va faire appel à ce système des coprods. Alors, depuis quelques jours, si vous allez sur le site, donc vous voyez l'évolution, le nombre de coproducteurs. Ce matin, au 25 octobre, il y avait 84 coprods pour 5 616 $ de récolté. Soit 2000 $ de plus que vendredi dernier. Donc, l'objectif du 50 000 $ va sans doute être atteint dans son cas, parce qu'il table en plus sur les marchés québécois et français. Donc là, on a un exemple d'une utilisation d'Internet et du numérique, à la fois au niveau du financement des films, donc ce qui vient sensiblement bouleverser les modèles d'affaires traditionnels de financement, mais aussi au niveau de la distribution et de la diffusion. Ce que le coproducteur, on s'entend anonyme, indépendant, cinéphile, peu importe, amateur de Xavier Dolan ou d'autres, en récolte. C'est ceci, c'est très intéressant. Les dernières actualités et des informations privilégiées, personnalisation à votre nom de la bande-annonce de vos films coproduits, possibilité d'avoir votre nom au générique, participation à certaines décisions artistiques, casting, scènes, affiches, photos, posez vos questions à l'équipe du film, visionnez le film par streaming en avant-première avec votre nom au générique, invitation évidemment à l'avant-première en salle, invitation à passer une journée sur le tournage, possibilité d'être sélectionné comme figurant et téléchargement de tout un dossier de presse pour votre propre promo du film. On a là un condensé d'un paquet de choses dont on a entendu parler depuis le début de la journée. La personnalisation, hein, l'importance du lien personnel, intime entre les consommateurs et les créateurs, producteurs. Une notion aussi de populisme qui est très importante, là. La diversification des modes de production, mais aussi cette idée d'être par ce biais-là, et ensuite, quelques paragraphes plus loin, on le mentionne très explicitement, TouscoProd voit ce produit-là, cette façon de faire, et ils ne sont pas le seul, hein, les mêmes systèmes existent aussi dans le milieu anglo-saxon, un outil de partage pour les différents réseaux sociaux des coproducteurs qui permet d'informer vos proches du projet et donc d'améliorer la publicité du film en question. Donc, on a là aussi cette vision, donc une sorte d'amalgame de cette nouvelle idéologie du consommateur collaborateur à la création, mais en même temps consommateur d'un produit filmique, on s'entend, mais aussi partie prenante d'un système capitaliste de diffusion et de commercialisation. Donc, le consommateur producteur, maintenant, devient lui-même un agent par les réseaux sociaux de la propagation et de la diffusion des films. Donc, un beau mélange, de mon point de vue de chercheur, entre interrogation culturelle, participative, démocratisation, etc., mais aussi, tout de même, un système fondamentalement fondé sur l'économie. C'est encore peu répandu donc au Québec, mais avec le cas de Xavier Dolan, donc en émergence potentielle. Au niveau de la distribution, maintenant, je l'ai dit, la distribution est importante. C'est le chaînon vraiment entre la production et la diffusion. Je dirais que l'utilisation, évidemment, des réseaux sociaux, des médias sociaux est de plus en plus importante. Téléfilm Canada a d'ailleurs un programme spécifiquement dédié, et donc qui finance les distributeurs pour utiliser les réseaux sociaux en amont, pendant et en aval du film, donc à toutes les étapes, justement dans l'esprit un peu des coprods, mais cette fois uniquement avec donc ces communautés virtuelles. Donc, c'est une réalité qui émerge, qui est, évidemment a émergé depuis plusieurs années. Le silence, Le Seigneur des Anneaux a été un bel exemple là, d'utilisation de communautés virtuelles pour avoir un effet virage, je dirais, du début, donc et même pendant l'écriture du scénario. Ici, ça commence à émerger et de plus en plus de productions l'utilisent et de distributeurs, donc, l'utilisent. Cependant, phénomène intéressant à observer, dans le cas de la distribution, une situation quand même précaire. Crystal Film, une importante boîte de distribution québécoise au Québec et au Canada, a fait faillite dernièrement. Donc, on a eu un recentrement vers, à toute fin pratique, deux gros joueurs, Alliance Atlantis Viva Film, le principal, TVA Film, et ensuite toute une panoplie de joueurs intermédiaires et plus petits, Coffee, Mekinox, etc. Et donc, les pressions sont fortes sur les distributeurs de choisir des projets qui vont être gagnants, qui vont être porteurs. Donc, au niveau, là, c'est davantage l'aspect diversité culturelle ici qui clignote. Il y a une certaine interrogation dans le milieu. Il y a eu d'ailleurs des conflits aussi importants entre distributeurs indépendants, salles plus indépendantes et autres. Donc, il y a des enjeux importants qui sont associés, évidemment, aussi au numérique, concernant principalement la relation entre donc, la filière de la distribution et de la diffusion. Alors, c'est la raison pour laquelle je passe directement à la diffusion, parce que c'est là qu'on a un ensemble d'enjeux vraiment qui cristallise plusieurs débats. Au niveau des salles, bon, là aussi, il y a des effets de concentration, surtout depuis l'achat de Cinéplex. Cinéplex, donc, qui a acheté et à toute fin pratique avalé Famous Players. Il y a des concentrations, Cinéplex, Guzzo, quelques autres grands joueurs, en région, davantage de diversité, mais tout de même, là aussi, une dépendance un peu partout sur le territoire québécois à des films porteurs, dans un contexte où il y a beaucoup de films qui sont produits, que les salles de cinéma se sentent, et vraiment, c'est eux qui ont amené le débat sur le numérique parmi les premiers au Québec, il y a déjà quelques années. C'est eux qui sentent que le système, l'économie est en train de changer. Il y a de la concurrence, il y a de la concurrence depuis longtemps de la part du DVD. Aux États-Unis, la majorité des profits des grandes majors hollywoodiennes, des grands studios, vient du DVD et du vidéo depuis très longtemps, ne vient plus des salles. Mais il y a de la concurrence aussi d'autres joueurs, la télévision, etc. Donc, vraiment beaucoup d'inquiétudes, surtout au Québec, de la part des petits exploitants de salles, notamment en région, qui se posent beaucoup de questions sur la numérisation des films. Et là, je ne rentrerai pas dans les débats techniques aussi, mais Hollywood tente là-dessus aussi, veut imposer ses normes techniques qui sont très élevées et qui, donc, qui coûtent beaucoup de sous. Et donc, là, là-dessus aussi, il y a des enjeux importants. Cela, dans un cadre de réduction du temps de vie d'un film en salle, en raison de la multiplication, notamment des fenêtres de diffusion, des pressions des distributeurs à exploiter le plus rapidement ces fenêtres-là, pression des distributeurs, mais aussi des consommateurs. On a entendu ce matin quelqu'un qui disait « Mais moi, je veux que le film soit accessible le plus rapidement possible, ne pas avoir nécessairement à me déplacer en salle ou attendre 4 ou 6 mois après sa sortie. » De plus en plus de cinémas se tournent, et là aussi, c'est le numérique qui est venu modifier cet écosystème, se tourne vers l'offre d'une variété de produits culturels, donc pas uniquement des films. Pensons à l'opéra, qui est un exemple de succès récent. Pensons aux matchs de hockey aussi, aux matchs de boxe, qui sont de plus en plus présentés dans des multiplex, notamment. Alors, il n'est pas rare d'observer aussi que plusieurs blockbusters québécois, qu'américains, que français vont occuper 3, 4, 5, 6 salles d'un même multiplex. Donc, il y a des pressions énormes sur les autres films, les films plus indépendants. Et là aussi, il y a des enjeux très forts, à la fois d'inquiétude et de potentialité de la part des acteurs. Mais ça pose la question de la diversité culturelle dans un tel contexte. La popularité énorme d'Avatar et du 3D. Et là, on le voit, hein, de plus en plus de films sortent en 3D, alors que l'industrie québécoise, elle, n'est pas encore au 3D au niveau de la production. Ça aussi, c'est peut-être un phénomène qui va émerger, ce sera à voir. Mais là aussi, ça crée des pressions sur une diversité culturelle. Bon, les salles et numériques, j'en ai parlé. Vidéo et DVD, Historiquement, l'industrie du cinéma a conçu un modèle d'affaires avec les salles de cinéma qui étaient vraiment centrées autour de la commercialisation de la projection. Donc, le spectateur acquérant le droit, entre guillemets, de visionner un film à un moment donné et durant une période limitée, le 2 ou 3 heures ou X du film, et sur un territoire donné. Le cinéma s'est ensuite progressivement ouvert à d'autres industries culturelles et là, s'est rapproché typiquement de la musique ou d'autres secteurs où là, vraiment, l'achat du support permettait justement de voir et de consommer, visionner le film à la maison ou ailleurs. Évidemment, avec Internet, ici, on a potentiellement un éclatement de ce schéma-là. Je dis potentiellement parce que il y a un discours dans l'industrie qui est souvent véhiculé, notamment par les majors, à l'effet que, bon, maintenant, tous les films sont accessibles via des systèmes transactionnels en ligne un peu partout sur la planète. Il y a des gourous aussi, il y en avait vendredi dernier, qui se présentent comme des experts en marketing publicitaire de cela. Attention, il y a des verrous dont on a entendu parler tout à l'heure, des verrous technologiques qui sont encore importants. Et je dirais qu'il y a vraiment une dichotomie entre ce discours du libre accès, de la gratuité, etc., de la transparence et des mécanismes de verrouillage et d'accès qui sont de plus en plus importants, qui sont alimentés par les majors, qui sont alimentés aussi par les fournisseurs d'accès à Internet, qui sont alimentés par les DRM, donc les logiciels de gestion des droits. Et donc, il y a des enjeux tout de même ici contradictoires importants. Il est clair au niveau du DVD que les entreprises de location de DVD, les clubs vidéo, font face à la concurrence d'Internet. Donc, là aussi, il y a une modification importante des modèles d'affaires dans le secteur. La faillite de Blockbuster aux États-Unis en témoigne éloquemment. Évidemment, souvent comparé au contraire au succès de Netflix, dont on a entendu parler tout à l'heure. Netflix qui vient d'ouvrir une succursale, en tout cas son pendant canadien, avec toutefois pas vraiment de visibilité pour le cinéma et québécois et canadien. Mais c'est encore un phénomène peu perceptible au Québec et au Canada. Et jusqu'à maintenant, Vidéotron, Superclub Vidéotron ou Blockbuster Canada réagissent par des campagnes de promotion plutôt traditionnelles, mais tout de même qui tentent d'être innovatrices à cet égard. Blockbuster qui offre pour 10 $ par mois un accès illimité à son catalogue vieux de plus d'un an. Donc, c'est le type de stratégie que des salles de cinéma en France ont mis en place, le laissez-passer mensuel pouvant accéder. Donc, des logiques d'abonnement qui sont tout de même symptomatiques d'un secteur qui passe d'un modèle d'affaires centré sur le paiement à l'acte ou visionnement, à des logiques d'abonnement qui sont typiques plutôt de réflexes et de modèles d'affaires associés aux câbles, aux distributeurs, aux services, à ceux qui donnent des services Internet. Alors, on a quand même là, on passe d'un modèle centré sur le produit culturel à un modèle davantage centré sur les services. Mais là, donc, je rejoins des éléments qui ont été évoqués tout à l'heure à cet effet, avec tout de même une contribution assez marginale dans tout ce système-là, au niveau en tout cas de la production de la part des câbles distributeurs. Alors, ce qui m'amène, et ce sera mon dernier point, à la consommation fréquentation. Alors, pour ce qui est de la consommation-fréquentation, mais juste avant, je vais revenir un dernier point tout de même sur la diffusion. Je veux parler de la vidéo à la demande très rapidement, qui est, je dirais, un secteur en pleine expansion, là, au Québec et au Canada. Je dirais que c'est la voie que le Québec a choisie. Est-ce qu'il y a un modèle d'affaires typiquement québécois ici? Sans doute, bien entendu, lié au pouvoir acquis par Vidéotron, par Québécois. Donc, de plus en plus de Québécois, et on a vu des statistiques ce matin qui l'évoquaient, hein, on continue à acheter notre abonnement au câble, notre abonnement au satellite, on continue à visionner de la télévision. Donc, on consomme de plus en plus de films via la vidéo à la demande, la télévision à la carte ou la télévision payante. Ça, les chiffres l'indiquent bien. Alors qu'ailleurs, le modèle traditionnel qui passait par les distributeurs, par les majors, a été davantage concurrencé sur ce plan, oui, durant longtemps par Canal Plus en France et d'autres grands joueurs, mais aussi par Internet de plus en plus, ce qui est nettement moins le cas ici. et avec Illico à la demande, qui permet de faire le lien directement avec le web. Vidéotron se trouve littéralement comme ça à faire déjà le lien, mais il faut tout de même avoir son abonnement à Vidéotron Illico à la demande et au service de Québécois. Donc, il y a eu ici, je dirais, oui, une concentration, une utilisation de ce modèle-là qui fait que la distribution de films en ligne, mais vraiment en utilisant Internet, ne fait que démarrer. L'ONF a été une pionnière à cet égard et il n'y a qu'une autre structure qui existe au Québec. Et c'est Vitec, la Vitec, donc, qui est la vitrine Internet web du groupe Vidéographe, qui produit, distribue des vidéos indépendantes, notamment les films de certains films de Pierre Falardeau. Donc, qui est un exemple là, classique d'achat en ligne, de téléchargement gratuit ou payant de contenu visuel. Alors, c'est peu développé. Alliance Atlantique Viva Film serait en négociation avec iTunes, Apple pour le développer davantage. Mais je dirais qu'on s'est vraiment concentré sur le modèle plutôt traditionnel et classique de la vidéo à la demande ou télévision par satellite, Bell Express Vue. Il y a une raison politique aussi, gouvernementale, derrière cela. Le soutien financier au film québécois, je l'ai dit tout à l'heure, de la part des autorités gouvernementales, nécessite, donc le producteur doit avoir un accord de distribution avec les distributeurs classiques. Alors, vendredi, quelqu'un l'évoquait, en Australie, on a la même contrainte et paradoxalement, une mesure faite pour encourager la distribution et la diffusion à l'ère numérique freine, je dirais, le développement de l'utilisation d'Internet pour des fins de téléchargement. Alors, là-dessus aussi, il y a des... Il me reste combien de temps? D'accord, je conclue. Alors, au niveau de la consommation, fréquentation, je vais arrêter là-dessus, mais simplement, ces flèches ici montrent un peu ces effets de retour vers... bon, c'est les Tusco Prod dont je parlais tout à l'heure. Bon, j'avais quelques autres, mais je vais terminer sur celle-ci. Martin, en France, Alban Martin, montre bien le passage de l'ancienne chaîne de valeur, plutôt séquentielle, entre donc sphère professionnelle et sphère publique, vers une chaîne de valeur plutôt fusionnée entre sphère professionnelle et publique. Bon, il y a une idéologie de la transparence, de l'accès, l'accessibilité, mais en même temps, la question que je pose, c'est au niveau de la diversité culturelle, on est tout de même, et pour moi, c'est tout de même typique de réinvestissement, de logique associée au capitalisme avancé à l'ère du numérique. Donc, et je conclue là-dessus sur cette question, mais finalement, sur la diversité culturelle, qu'en est-il? Mais l'important est de développer des outils de mesure parce que, et statistiques de mesure, parce que tant au niveau des secteurs et des occupations qu'au niveau de la chaîne de valeur, il y a un brouillage complet de ces différentes sphères, et ça, il faut le suivre statistiquement. Merci.